Bonjour à tous et bienvenue dans cette embellie réalisée par Juliette Gou, préparée par Arnaud Jamin et mise en musique par Muriel Pérez. À la technique ce matin, François Saint-Jour. Porter son regard cette semaine sur le film My Dinner with André, réalisé par Louis Malle en 1981 sur un scénario signé par les deux acteurs principaux, Wallace Shawn et André Gregory, qui vont passer près de deux heures à parler d'expériences théâtrales et de métaphysique, balayant tous les champs de la vie, traversée avec la conscience d'être au monde ou au contraire une anesthésie de l'âme. On peut voir ce film de deux façons. En s'ennuyant, on assiste au long repas de deux types qui n'arrêtent pas de jacasser en citant des références culturelles, ou en s'interrogeant sur son propre rapport à l'existence. C'est cette manière que je recommande, mais il faut avoir la disponibilité et ce n'est pas évident. C'est justement l'un des sujets de ce film. En ce moment, notre invitée est rabbin, issue du mouvement juif libéral de France, conteuse, essayiste et directrice de la rédaction de la revue trimestrielle de pensée juive Ténoua. Mais cette ancienne journaliste aurait pu et pourra être mille autres choses. Une idée appuyée par la parution de son dernier livre, Il n'y a pas de hasard aux éditions Grasset en septembre dernier. Pensé comme un monologue contre l'identité, mettant en scène le fils imaginaire du double imaginaire de Romain Gary, le texte sera joué du 13 au 23 décembre prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris par Johanna Nizar qui signe aussi la mise en scène aux côtés d'Arnaud Aldiger.
L'embellie. Eva Bester sur France Inter.
Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour Eva Bester.
Êtes-vous contente d'avoir été mise au monde? C'est une drôle de question à poser à un rabbin.
Oui, je crois que je suis assez contente d'être là, de cette expérience de vie, de ces vies. Le mot vie en hébreu, il n'existe qu'au pluriel et je pense souvent à ça, à cette particularité grammaticale en hébreu. Aucun de nous n'a une seule vie, mais toujours la possibilité d'en avoir plusieurs existences. Et oui, je ressens en tout cas beaucoup de gratitude pour ce que la vie ou les vies me permettent de traverser.
Il y a une question, parce que j'aurais aimé vous recevoir dans Remède à la mélancolie à l'époque, et je ne peux pas m'empêcher de vous poser cette question. La mélancolie est-elle un péché dans le judaïsme, comme par exemple son synonyme l'acédie le fut dans le christianisme?
Non, parce que je crois que malheureusement l'expérience juive ne pourrait pas faire sans la mélancolie et les tragédies de l'histoire, les drames que le peuple juif a traversés, lui ont appris d'une certaine manière à vivre avec cette mélancolie, à la gérer, à avoir parfois des outils efficaces pour composer avec cette mélancolie. Un de ces outils, je crois, efficaces, en tout cas qui a fait ses preuves, c'est l'humour juif, qui est une certaine façon de gérer les drames de l'existence, de vivre avec le deuil, en riant du monde, en riant de Dieu, en riant de soi, non pas pour faire disparaître les drames, mais pour essayer un tout petit peu de s'en relever.
Concernant le deuil, je recommande votre très joli livre « Vivre avec nos morts, petit traité de consolation ». Et j'enchaîne avec cette question, Delphine Horviller. Comment se passe la cohabitation avec vous-même?
J'adore vos questions.
Bah, tant mieux.
Alors la cohabitation avec moi-même, en fait, ça dépend des jours. À nouveau, je crois qu'on est tous un peu schizophrènes d'une certaine manière. J'ai l'impression d'avoir plusieurs moi qui dialoguent en moi. Mon dernier livre, volontairement, en sous-titre, j'ai écrit qu'il s'appelait « Monologue contre l'identité ». Mais c'était en fait un peu une blague parce que je ne crois jamais au monologue. Je crois qu'on peut jamais monologuer en soi, qu'on a toujours en soi plein de voix qui parlent. Et moi, j'ai l'impression souvent de faire discuter à l'intérieur de moi-même des voix de mon passé, des voix de mes ancêtres, des voix de mes regrets, des voix de mes rêves. Et donc, cette cohabitation, elle est un peu bruyante, c'est un peu un brouhaha permanent. Mais encore une fois, je fais comme je peux.
Est-ce qu'il y a des voix qui prennent plus de place que d'autres?
Oui, les voix du devoir, souvent, résonnent assez fort dans ma tête. Vous citiez il y a un instant mon livre « Vivre avec nos morts ». Dans ce livre, j'évoque deux décédées bien connues qui ont compté pour moi. J'y pense parce qu'elles sont comme deux voix dans ma tête très particulières. C'est Simone Veil et Marceline Loridan-Ivens, qui étaient deux rescapées d'Auschwitz, qui ont été très amies l'une avec l'autre jusqu'à la fin de leur vie. Et pour moi, ces deux visages de femmes incarnent deux façons d'être femme au monde. J'en ai parlé un peu dans mon livre, mais pour moi, Simone Veil, c'est une féminité du devoir, la féminité de l'engagement politique et du devoir et du chignon un peu serré, comme ça. Et puis Marceline Loridan, qui avait les cheveux un peu comme les miens, tout bouclés et bourriffés et sauvages, représente un peu le désir, la volonté d'aimer, d'être libre et de s'émanciper. Et j'ai souvent l'impression qu'en moi, ces deux voix de femmes, représentées un peu par Simone et Marceline, se livrent une guerre... et une amitié, elle aussi, mais ce livre, un combat permanent. Est-ce que je suis censée remplir un devoir, agir dans le monde, laisser une trace? Ou alors est-ce que simplement l'enjeu de la vie, c'est d'aimer? En fait, je peux pas répondre à cette question.
Qui sont les derniers mots de la vie devant soi, dont on va parler tout à l'heure, j'y reviendrai. Delphine Norviller, ce qui vous donne envie de vous lever, ce sont vos enfants, leur rire et l'odeur du café. Ça paraît cachère, je crois. Je n'ai donc pas de questions à ce sujet, sauf si vous voulez ajouter quelque chose.
Oui, ça paraît même assez banal, peut-être, mais c'est vrai, je me rends compte que souvent le matin, il y a certains rituels qui sont des rituels logistiques ou des rituels affectifs. Accompagner mes enfants à l'école, prendre le temps de marcher, de rire. Et puis, c'est vrai que j'ai une tradition aussi de café matinal. Je prends tous les matins un café avec mon meilleur ami. Et c'est voilà une tradition qui m'est extrêmement chère, qui est très stimulante pour ma pensée aussi et mon équilibre.
Dans un café ou chez
toujours le même, toujours le même café. Je donnerai pas l'adresse.
Non, bah non.
Mais voilà, c'est un de mes rituels sacrés, presque religieux.
Dans un instant, il sera entre autres question d'autodérision, de récit, de Romain Gary, d'homme caméléon, de science, de variété, de Gérard Garouste et du poète Yehuda Amichai. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. La place de Clara Luciani dans L'embellie sur France Inter. Nous sommes avec Delphine Horviller, qui aimerait comme changement dans la société le développement du sens de l'humour de ses contemporains et inviter ces derniers à l'autodérision. En exergue de votre dernier livre « Il n'y a pas de hasard », vous avez placé cette citation de Romain Gary « L'humour est une affirmation de supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive ». Pensez-vous que le sens de l'humour puisse s'acquérir ou se développer ?
Oui, moi je pense que le sens de l'humour, ça s'apprend. Alors bien sûr, il y a des gens qui ont des prédispositions naturelles, mais je crois que c'est quelque chose qui s'apprend avec la capacité, par exemple, quand on lit un livre, de percevoir le deuxième degré, c'est-à-dire de lire entre les lignes. En fait, c'est presque une capacité littéraire, une capacité de lecture des livres et de lecture du monde, en fait, l'humour. Alors après, il y a plein de types d'humour. Moi, je suis très sensible à, c'est vrai, à l'humour des jeux de mots, des doubles sens. En fait, de façon générale, je crois que je suis très sensible aux malentendus, à tous ces moments dans la vie où on a l'impression d'avoir compris quelqu'un, alors qu'on s'est complètement planté, on était à côté de la plaque, on a cru savoir ce qu'il disait, mais pas du tout. Et ce petit décalage entre ce qu'une personne dit et ce que l'autre comprend, suscite parfois l'incompréhension, mais aussi souvent l'éclat de rire. Il y a plein de blagues qui ont pour ressort comme ça le double sens. Moi, j'en ai plein en tête.
Vous en avez une,
là ? Ouais, il y en a une que je raconte souvent parce qu'elle elle continue à me faire rire. C'est l'histoire de deux hommes devant un bain public et il y en a un qui dit à l'autre « T'as pris un bain ?» et l'autre lui répond « Bah non, pourquoi ? Il en manque un ?»
Oui.
Vous voyez ce que je veux dire? Cette ouais. capacité de comprendre les mots autrement qui suggère toujours que le langage est plus grand que nous, que nos mots nous dépassent et qu'on ne les contrôle pas. Et l'humour, l'humour du langage naît souvent de ça et je trouve que ça nous rend plus intelligents.
Avez-vous toujours fait preuve d'autodérision ou vous êtes-vous déjà prise en flagrant délit de prise au sérieux?
C'est une très bonne question. Je crois que c'est quelque chose qui me fait très peur. C'est difficile d'en parler parce que tout de suite, on a peur de... quelque chose d'assez prétentieux à dire ça. Je sais pas, je sais que ce qui me fait très très peur dans la vie, c'est de me prendre au sérieux dans plein de circonstances. Et je dois vous avouer quelque chose, c'est que je me rends compte que très souvent, j'ai le sentiment d'être imposteur dans ce que je fais, c'est-à-dire que je suis pas vraiment sûre d'être légitime, d'avoir le droit de le faire. Il y a beaucoup de gens autour de moi, un peu parfois mal intentionnés, qui se chargent de me rappeler que peut-être je suis pas très légitime dans ma fonction, en tant que femme, en tant que rabbin, etc. Et en fait, avec le temps, je suis devenue extrêmement reconnaissante vis-à-vis de ce discours. En fait, ça peut sembler paradoxal, mais moi j'aime bien ne pas être sûre d'être à ma place. Je trouve que c'est dangereux quand on se sent très légitime et
trop
très installée, quand il y a une forme de sédentarité mentale ou spirituelle qui s'empare de vous. Souvent, ça empêche de grandir, ça empêche de réfléchir, de remettre en question votre univers. Donc je pense que finalement, c'est pas mal d'être dans l'incertitude, dans le doute et de jamais voilà, se laisser installer dans des convictions inquestionnables.
Et contre la prise au sérieux, je rappelle que Lubitsch disait « L'être le plus digne est ridicule au moins deux fois par jour ». Parce qu'on essaye toujours de ne pas l'être. Donc. Delphine Horviller, je vous ai interrogé sur vos engagements et vous avez répondu ceci. « Je crois que ce qui m'anime, c'est la pertinence des histoires et le sacré des récits qu'on se raconte. J'essaie de participer à des récits qui changent le monde. » C'est une idée qui revient souvent dans vos propos et écrits. Le propre de l'homme qui serait sa capacité à raconter des histoires et à les croire. Vous citez d'ailleurs à sujet Noah Harari et son Sapiens. Des histoires que vous qualifiez aussi d'armes de destruction ou de construction massive.
Oui, je trouve très intéressant que pendant tellement de centaines d'années, la philosophie s'est posée la question de quel est le propre de l'homme. Est-ce que le propre de l'homme, c'est la parole? Non, on sait que certains animaux dialoguent. On a pensé que le propre de l'homme, c'était l'humour, et on sait aujourd'hui que c'est pas vrai, qu'il y a des primates qui se font des bonnes blagues. On a pensé que c'était les rites funéraires, mais on a découvert qu'il y avait des cimetières d'éléphants. Finalement, on avance de plus en plus, en tout cas le livre de Yuval Noah Harari le suggère, vers le fait que le propre de l'homme, c'est sa capacité à croire aux histoires qui se racontent. Parfois des histoires grotesques, absurdes, de finalement construire des collectifs en se reliant à des fictions. Et finalement, c'est une grande force que cette vulnérabilité de croire. Et je trouve que oui, avec des histoires, on peut changer le monde. On peut changer le monde pour le meilleur ou pour le pire. Les grandes catastrophes, les pires idéologies sont construites autour de gens qui croient dur comme fer à des histoires mortifères. Mais de la même manière qu'une histoire, elle peut nous pousser à assassiner, à tuer ou à détruire, elle peut nous pousser à faire des choses extraordinaires, à nous rendre plus grands. Et donc, je pense qu'on a besoin, peut-être plus que jamais, de narratifs qui nous rendent plus dignes, meilleurs, plus engagés, en fait, qui construisent quelque chose de transcendant dans nos vies. Et si on peut tous, à notre manière, participer à ça, à construire des histoires, à se raconter des histoires, mais au sens positif du terme. En français, on dit arrête de te raconter des histoires pour dire arrête de dire des bêtises. Mais en fait, il faut se raconter des histoires. Il n'y a que de cela dont on vit, des histoires politiques, des histoires sociales.
Religieuses.
Et religieuses, bien sûr, de toutes ces histoires qui nous relient.
Vous dites, notre monde a un problème avec la fiction qu'on perçoit de plus en plus comme synonyme de mensonge, alors que la fiction et le réel, selon moi, doivent dialoguer constamment pour construire un monde vivable. Le mensonge existe. Pour autant, quelle est la différence entre la fiction et le mensonge ?
En fait, pour moi, la fiction, c'est ce qui compose avec la réalité. Et c'est ce qui la rend plus grande. En fait, la fiction, ça ne s'oppose pas nécessairement à la réalité. C'est une façon de composer avec, de l'élargir. Mais la fiction, elle est essentielle aujourd'hui. Et il y a un danger à chaque fois qu'elle est menacée. Vous voyez, cet été, je me suis beaucoup intéressée à deux événements qu'on a vécu ces derniers mois, qui bien entendu n'ont rien à voir, ni dans leur sens, ni dans leur gravité, mais qui ont des points communs. Il y a eu la tentative d'assassinat contre Salman Rushdie. Le fait que voilà, on veut tuer cet homme depuis des dizaines d'années, il y a une fatwa contre lui. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit une fiction, et que les fanatiques l'ont très bien compris. En fait, la fiction est dangereuse. Elle est dangereuse parce que elle questionne le dogme, elle questionne la vérité unique, elle agrandit notre monde, et tous les fanatiques veulent se débarrasser de la fiction créative au profit d'une vérité une. Et puis il y a eu un autre événement anecdotique après tout, mais bon, qui pour moi était révélateur. Le physicien Étienne Klein a publié sur Twitter une petite image, vous vous en souvenez peut-être, oui. On voyait une tranche de chorizo et il faisait croire que c'était l'image d'une étoile, et ça a déclenché un scandale sur Twitter.
Oui, c'était un canular pas méchant en
bien
plus.
Et c'était une fiction intéressante parce que sa petite blague suggérait de façon très juste que parfois la science a besoin d'humour, elle aussi, pour avancer. La fiction peut dialoguer avec la plus grande des réalités, la vérité scientifique. Et beaucoup de gens ne le comprennent plus aujourd'hui, parce qu'ils voudraient d'une manière ou d'une autre, parfois avec de très bonnes intentions, ils voudraient qu'on se débarrasse de la fiction. Et un monde sans cette fiction, c'est un monde où la réalité, elle est toute petite et étouffante.
Delphine Horviller, dans Vivre avec nos morts, vous rapprochez le métier de rabbin de celui de conteur.
Oui, souvent, quand on me demande d'expliquer ce que c'est mon métier, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est un rabbin, et c'est vrai, on s'imagine parfois que c'est comme un prêtre, mais pour la communauté juive, en fait, ça n'a rien à voir. Un rabbin, ce n'est pas une fonction sacerdotale, c'est une fonction d'enseignement. Mais ce qui se rapproche le plus, à mon sens, il y a deux métiers qui se rapprochent le plus du mien. Il y a le métier de conteur, c'est-à-dire de faire dialoguer des récits ancestraux avec des expériences inédites et contemporaines, la force du narratif et des contes dans toutes les sociétés. Et puis, il y a le métier de traducteur aussi, c'est-à-dire la capacité d'opérer des passages entre des temps, entre des langages, etc. Pour moi, mon métier de rabbin, c'est un carrefour entre être un enseignant, être un traducteur et être un conteur.
Écoutons la voix d'un roi de la fiction qui s'est créé et recréé de nombreuses fois sans parvenir toutefois totalement à s'échapper de certaines histoires.
Le mystère ou le faux mystère du Goncourt, Émile Ajar continue de se cacher. Son identité a été révélée ce matin chez nous à France Inter par Jean Pichon à 7h. Le lauréat du prix Goncourt a quitté son domicile de Cagnac, du Caust, pour une destination inconnue en compagnie de sa femme et de sa fille. Paul Pavlovitch, c'est son véritable nom, a de solides attaches à Cahors. Émile Ajar vient de confirmer dans une lettre adressée au président du Goncourt et aux éditions Mercure de France sa décision de renoncer au prix. Un homme le connaît bien, son oncle, Romain Gary.
Mettez-vous à la place d'un garçon jeune qui a un homme proche de sa famille, qui a atteint une certaine notoriété littéraire dans des conditions publicitaires, dans des conditions de produit, un produit Romain Gary qui ne lui plaît pas. Tout ce qui se passe aujourd'hui prouve que lorsqu'on veut préserver sa vie privée, on a tort de publier. À partir d'un certain degré de notoriété, les types deviennent prisonniers de leur image.
Que croyez-vous qu'il va devenir des ménageurs ?
Tout ce que je voudrais, c'est qu'il continue à écrire.
Dans les lectures qui ont changé votre rapport au monde ou à vous-même, Delphine Horviller, il y a Romain Gary, qu'on entend au micro de Jean-Pierre Elkabbach en 75 sur Inter. L'écrivain participe avec conviction à la mystification autour de la remise du prix Goncourt à un certain Émile Ajar, qui n'est autre que lui-même, auquel il prête une autre vie, celle de son neveu. C'est la deuxième fois qu'il a le prix Goncourt, sous une autre identité.
Elle est extraordinaire, cette interview. Je la connaissais pas, mais
dénichée par Juliette Gou.
Bravo, parce que c'est extraordinaire, cette capacité. En fait, c'est un culot monstre d'expliquer pourquoi il a gêné ce neveu qui, en fait, n'est autre que le pseudo. Enfin, c'est extraordinaire de mise en abîme. Il y a un mot en hébreu pour ça qui me vient à l'esprit, c'est le mot chutzpah. C'est un culot terrible. On a l'impression que, voilà, Romain Gary a fait preuve tout au long de sa vie d'un sacré culot pour inventer se réinventer. C'est assez génial et vertigineux.
Vous lui avez consacré un ouvrage, Il n'y a pas de hasard, monologue contre l'identité. Vous parlez du club des gens qui pensent que Romain Gary leur raconte leurs histoires et qui sont reliés entre eux par une profonde mélancolie proportionnelle à leur passion de vivre. J'aime beaucoup cette définition.
Oui, pour moi, Romain Gary, c'est l'écrivain de la survie. Dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, il a survécu à des catastrophes, à des drames, à des conflits mondiaux, à la Shoah, à la résistance, au combat, à la guerre, etc. Mais en fait, il se réinvente pour survivre et il s'engage à survivre en deux mots, ou à sur, plus loin, vivre. C'est comme s'il s'était fait la promesse solennelle que sa vie serait plus grande que sa vie, qu'il en aurait plusieurs. Et je trouve que tous les gens qui trouve que parfois le monde est étriqué ou que le langage nous permet pas de dire tout ce qu'on voudrait dire, assez vite se reconnaissent dans ce stratagème, cette stratégie de survie.
Romain Gary a eu une identité russe, puis polonaise, lorsque Vilnius et sa région sont intégrés à la Pologne après la Première Guerre mondiale. Ensuite, il est français, il se disait aussi mongol ou tatar. Il a eu plusieurs pseudonymes, comme Pessoa, un peu moins que Pessoa quand même. Il s'est appelé Fosco Sinibaldi, Chatan Bogat. Vous, est-ce que vous changez Delphine Horviller quand vous parlez par exemple en hébreu ou en arabe?
Je sais pas si je change, mais en tout cas, quand je passe d'une langue à l'autre, j'ai l'impression que de comprendre un peu mieux la question qui m'est posée. Par exemple, je vous cache pas que parfois on me pose une question, et quand je sais pas répondre à cette question, je la traduis assez naturellement dans une autre langue, en anglais, en hébreu par exemple. Et en fait, je trouve que faire un passage par une autre langue vous permet de faire résonner les mots autrement, d'entendre des double sens, des ambiguïtés. Encore une fois, vous voyez, c'est une histoire de malentendu.
Oui, et de rabbin traducteur.
Oui,
en fait, les traducteurs et conteurs.
Voilà, j'ai besoin tout le temps de traduire pour que ma pensée vaque un peu ou ça grandisse un peu. Et je trouve que Romain Gary, en fait, d'une certaine manière, aussi a la chance de ne pas écrire dans sa langue maternelle. Je remarque ça chez d'autres auteurs, d'ailleurs, que lui, les gens qui écrivent dans une langue qui n'est pas leur langue maternelle, en fait, ils réinventent la langue dans laquelle ils écrivent. Et je trouve ça assez génial. Voilà, il faudrait tous qu'on soit capable de faire ça. En fait, se méfier du monolinguisme et toujours se débrouiller pour écrire ou parler sa propre langue, comme si elle nous était un peu étrangère ou comme s'il y avait en nous un étranger qui la parlait.
Mais donc on revient toujours à cette idée d'identité mouvante, de multi-identité. Dans votre livre, Il n'y a pas de hasard, Delphine Horviller, à un moment on découvre ce fait divers paru dans le Figaro en 2018, qui est quand même extraordinaire, un Néerlandais de 69 ans qui se sentait victime de discrimination à cause de son âge en amour et dans la vie professionnelle, demande à ce que sa date de naissance soit modifiée et qu'on lui enlève 20 ans.
Elle est extraordinaire, cette histoire.
C'est extraordinaire.
Et elle est tout à fait réelle. C'est une coupure de presse que j'avais soigneusement découpée et gardée dans un petit classeur. Et parfois, vous tombez sur des choses fabuleuses. Voilà. En plus, je crois que ce monsieur avait plaidé devant un tribunal en leur disant, il faut quand même vivre avec votre temps. C'est-à-dire que lui, qui voulait rajeunir de 20 ans, plaidait devant le tribunal que quand même, il faut vivre avec son temps et on a quand même le droit d'afficher sur sa carte d'identité, non pas l'âge de notre naissance, mais l'âge de notre ressenti. Alors, je me dis que vous allez me poser la question, quel âge j'ai vraiment maintenant? Et je ne sais pas quel âge je me sens avoir, mais en fait, moi, je pense que je suis très, très jeune. Je suis quelque part dans l'enfance, au tournant de l'adolescence, peut-être, mais pas plus loin.
C'est magnifique. En exergue de réflexion sur la question antisémite, Delphine Horviller, vous citez Kafka. Qu'ai-je de commun avec les Juifs? C'est tout juste si j'ai quelque chose de commun avec moi-même. En fait, on ne peut pas se définir.
Non, et d'ailleurs, il faut refuser souvent de le faire, mais on est tout le temps
dans l'obsession.
Sommé.
Oui.
Aujourd'hui, on est tout le temps sommé de le faire. Les gens vous disent « En tant que quoi parlez-vous ? En tant que qui ? Quel est votre groupe d'appartenance ?» En fait, il faut systématiquement, moi je crois, refuser un discours où on vous demande, qu'on vous demande de commencer par « En tant que quelque chose ». En tant que femme, je considère. En tant que juif, je pense. En tant que parisien, voilà quel est mon avis. Ça n'a aucun sens. En fait, nos identités sont polymorphes, protéiformes, millefeuilles. Voilà. Et je pense qu'il faut en être tout le temps conscient, voilà, démultiplier les choses. Et cette phrase de Kafka, elle est effectivement très, très puissante, parce que on lui demande de faire partie d'un collectif. Il dit, j'ai déjà, pourquoi je me sentirais quelque chose de commun avec ces gens-là? Je me sens déjà rien de commun avec moi-même. Et voilà, c'est finalement, c'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Combien de voix en moi dialogue? Ben, c'est celle-là aussi. Je pense que il faut s'assurer qu'en soi, il y ait toujours une polyphonie.
Bon, alors, une seule chose est sûre, nous sommes tous des millefeuilles.
J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rodé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me cache, je voyage toujours en faune. Des champs de coton dans ma mémoire. Trois notes blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire.
"1982, quand la musique est bonne" de Jean-Jacques Goldman, car vous êtes friande, Delphine Horvilleur, de chansons de variété, et nous avons enquêté notamment de Jean-Jacques Goldman. Vous avez aussi une passion pour le karaoké et la danse, et là vous avez sauté et remué en tous sens. Moi je me suis retenue parce que je suis un dandy, mais j'avais envie de vous rejoindre et de rebondir partout. C'est difficile de résister.
Oui, mais c'est difficile de résister parce que c'est la bande-son de... Je sais pas, pour moi, de ma génération, de mon enfance, de et puis moi je crois au pouvoir de la variété. Souvent, comme ça, d'un revers de main, on méprise un peu ces chansons populaires. Moi, je trouve qu'au contraire, elles racontent tellement de choses sur nous, sur notre temps, sur ce qu'on traverse, sur notre affect. Moi, c'est très important pour moi, ces musiques et la culture populaire en général.
Vous en écoutez beaucoup ?
Oui, j'en écoute beaucoup. Et puis c'est vrai que j'aime bien les... Vous parlez de karaoké, moi j'adore chanter avec des amis. Voilà, je suis très bonne cliente pour ça, pour les soirées karaoké.
Est-ce que vous avez ce même plaisir du chant dans les offices religieux ?
Oui, c'est important pour moi. Je travaille depuis des années, donc je suis rabbin d'une synagogue du judaïsme en mouvement. On a beaucoup travaillé ces dernières années avec des musiciens, des compositeurs, pour se poser la question de comment on peut proposer aux gens qui viennent prier avec nous une expérience musicale de chant, donc de la liturgie traditionnelle, des offices, de Shabbat et de fêtes juives. Comment est-ce qu'on peut conserver pour eux un effet de ce qu'on appellerait peut-être une madeleine de Proust, vous savez, des airs qu'on a l'habitude d'entendre dans des traditions religieuses, mais aussi penser quelque chose d'inédit, de contemporain. Et je travaille pour ça avec des musiciens, un clarinettiste, un violoniste et un pianiste, et on propose très régulièrement dans les offices des offices un peu plus musicaux. J'essaie toujours de les convaincre qu'on devrait faire des offices entiers sur des airs de variété. Alors on n'a pas encore fait avec Jean-Jacques Goldman, mais ce serait une idée en fait de mêler d'une certaine manière, des messages très traditionnels avec des résonances contemporaines d'une génération. En fait, pourquoi pas ?
Bah oui. Dans votre équipement existentiel, Delphine Horvilleur, il y a aussi les articles scientifiques, la science et la biologie. Je vous ai demandé ce que vous aviez raté et vous avez répondu une carrière de neurobiologiste. Je crois que vous avez entamé des études de médecine à l'Université hébraïque de Jérusalem.
Oui, j'ai fini 3 ans de fac de médecine à Jérusalem et puis ensuite j'ai fait de la recherche en neurosciences. Et ça reste quelque chose qui me fascine. Souvent je me dis que voilà, ça aurait pu être... une autre voie pour moi, un raté. Voilà, je suis fascinée par les gens qui travaillent sur la conscience et la neurologie. Particulièrement, il y a un chercheur qui s'appelle Lionel Nakache, que je trouve extrêmement brillant, et qui travaille précisément sur la question de la conscience d'un point de vue neurologique, mais aussi philosophique. Et je trouve pour moi que c'est un des sujets les plus extraordinaires d'études qui soient.
Vous dites faire dialoguer en vous rationalité et pensée magique. Et dans une interview, j'ai trouvé ça très mignon, donc je le cite, vous dites que vous étiez une petite fille mystique et que vous étiez persuadée de faire de la télépathie avec vos grands-parents silencieux.
Oui. J'avais pas mal de croyances enfant, alors je pensais effectivement être capable de faire de la télépathie. À une époque, alors c'est vraiment un moment psychanalytique pour moi, je raconte des choses que je raconte pas d'habitude, mais à une époque j'avais aussi la conviction, je lisais beaucoup de bandes dessinées, et j'avais la conviction que si on pensait très fort quelque chose, ça apparaissait au-dessus de sa tête sous la forme d'une bulle. Donc il m'arrivait parfois, quand je dialoguais avec les gens, de faire de grands gestes comme ça au-dessus de ma tête pour m'assurer qu'aucune bulle n'allait trahir le fond de ma pensée. J'avais pas mal d'idées un peu loufoques. Je pensais entre autres être la réincarnation de Joséphine de Beauharnais. Enfin, j'avais plein d'idées très étranges quand j'étais enfant. Maintenant, j'ose les dire et le raconter. Je n'ai rien à perdre. Mais vous voyez cette folie de l'enfance, en fait.
Ou poésie.
Oui. Il faudrait pas qu'elle nous quitte. En fait, souvent, on lui dit au revoir à un moment donné, ou on la met dans une petite boîte et on avale la clé. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'en fait, on se construit là-dessus, et que finalement, on devrait être tellement reconnaissant et dans la gratitude à l'égard de nos loufoqueries du jeune âge.
Oui, on revient à cette prise au sérieux qu'il faut éviter à tout prix.
A restless heart. Hear me, I've got a restless heart, and I'm like a runaway train at breakneck speed. No amount of picking my fingers could ever stop it in its tracks. I've got a restless heart, but hear me, it's running out of track. Restless heart. Oh yeah, one track of mine. Couple demon feet. Reaching in a sat back recline, checking out the perfect view from a first class seat. While the couple in stray and the axles.
Restless Heart, un cœur sans repos de Jonathan Jeremiah dans L'Embellie sur France Inter, toujours en compagnie de Delphine Horviller et d'un homme caméléon.
La police enquête sur la disparition d'un employé nommé Léonard Zelig. Tant sa logeuse que son employeur l'ont porté disparu. Sur un simple tuyau, la police retrouve sa trace dans Chinatown où elle découvre, dans l'arrière-boutique d'un établissement chinois, un oriental à l'aspect étrange dont le signalement correspond à celui de Zelig. Soupçonneux, les enquêteurs tentent de lui arracher son masque. Mais ce n'en est pas un, et une bagarre éclate. L'homme est emmené de force à l'hôpital Manhattan. Dans l'ambulance, il hurle et lance des jurons en ce qui semble être de l'authentique chinois. On lui passe la camisole de force. Incroyable, mais 20 minutes plus tard, quand il descend de voiture, il n'est plus chinois, mais occidental.
Le film que tout le monde devrait voir pour être armé dans l'existence, selon vous, Delphine Horviller, Zelig de Woody Allen, sorti en 1983.
Il est extraordinaire, ce film.
Je l'ai revu pour l'émission, vraiment.
Oui, pour moi, c'est un film effectivement assez culte sur cet homme qui prend la couleur, l'apparence, l'accent des gens qui fréquentent.
Et le métier.
Ouais, voilà, c'est le caméléon parfait. Et c'est vrai que je suis très sensible à cette image. Elle renvoie bien sûr pour moi à l'univers de Gary aussi. Gary n'arrêtait pas de dire qu'il était un caméléon. Il se posait la question de comment on fait quand on change de couleur. Si on se met sur du rouge, on devient rouge. Sur du vert, on devient vert. Et il pose la question, qu'est-ce qui se passe si on vous pose sur un plaid écossais? Et il suggère qu'un caméléon sur un plaid écossais, ça finit par exploser. C'est dangereux de changer tout le temps d'identité, de s'adapter, mais c'est une condition de la vie, cette plasticité.
Mais ce Zelig, dans le film de Woody Allen, souffre d'un manque d'amour. C'est pour ça qu'il se met en empathie totale, en identification totale avec son interlocuteur. Il y a des scènes très amusantes où il parle avec des médecins, il se prend pour un médecin, et il cite ses travaux. Il y a le vrai syndrome de Zelig, qui a été nommé ainsi d'après le film, qui a été découvert en 2007 par un psychologue italien.
Oui, vous écoutez, je me disais qu'il y a beaucoup de gens qui ont souffert ces dernières années d'un syndrome de Zelig et qui se sont pris pour des médecins au cœur
Ça oui, sur les réseaux sociaux notamment.
Sur les réseaux sociaux, oui, dans la pandémie. Mais voilà, je crois que, en fait, cette image de cet homme, Zelig, qui souffre d'un manque d'amour et qui va devoir s'adapter et combler son manque en se laissant influencer par le monde autour de lui, finalement, c'est chacun d'entre nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souffre pas d'un manque d'amour, si oui, qu'on nous le présente. En fait, on souffre tous d'une certaine manière d'un manque de quelque chose, d'une incompréhension qui nous a laissé orphelins, d'une complétude perdue, de quelque chose voilà qui nous manque. Et donc, on fait de la même manière exactement comme lui, chacun à notre échelle. En fait, on va capter dans notre environnement des éléments qui vont un peu essayer de colmater tout ce qui est manquant chez nous.
D'ailleurs, dans Il n'y a pas de hasard, Delphine Horviller, vous dites: je crois que c'est la pire chose qui puisse arriver dans l'existence, ne manquer ni de sel, ni de tendresse, ni d'amour, parce qu'alors il n'y a aucune raison de se mettre à parler, à écrire ou à créer. Si t'es complètement, immanquablement toi-même, alors il n'y a rien à dire.
C'est vrai, c'est la condition de la création. Souvent les gens pensent, il y a un malentendu, les gens pensent qu'on crée parce qu'on a un surplus de quelque chose, que tout à coup on veut partager avec le monde, un petit truc en plus qu'on aurait à offrir à l'extérieur. Mais c'est exactement l'inverse. En fait, on ne crée que parce qu'on sait qu'il nous manque un truc, que justement il y a une faille en nous, une fissure, une cassure, et qu'on sait qu'on pourra jamais la combler, on pourra jamais faire du un, de la complétude, de l'intègre à nouveau. Alors on crée, voilà, pour faire avec le manque. En fait, pour moi, c'est ça la créativité. C'est ça même l'accès à la parole, en fait. On commence à parler parce que quelque chose nous manque. Les psychologues ou psychanalystes diraient parce qu'on a cessé de faire un avec sa mère ou avec ses parents, alors on accède au langage. Mais c'est vrai tout au long de la vie, en fait, on prend la parole, ou on a quelque chose à dire, ou à montrer, ou à créer, ou à faire, parce qu'on sait que c'est fichu, en fait, qu'il y a quelque chose en nous qui est déjà abîmé et cassé et qui ne sera jamais complètement réparé.
Comment est-ce qu'on vit avec cette idée? Ça me rend très mélancolique tout à coup parce que j'en ressens la véracité.
Mais en fait, la mélancolie, c'est pas une malédiction. En fait, au contraire, si on accepte que c'est la condition humaine que de vivre avec le deuil. Alors en fait, on apprend à faire avec. Ce qui est terrible, c'est quand des gens autour de vous, ou une société, ou vous-même, vous essayez de vous convaincre que ça va passer, que ça va se colmater, que ça va se réparer. En fait, non, l'exemple parfait de ça, c'est effectivement le deuil. Ce qui n'est plus, n'est plus. Et vous ne ferez pas revenir ceux qui ne sont plus. Mais il y a une façon de faire avec la déchirure, avec le fait qu'ils ne sont plus là. Qui en fait est la plus grande honneur qu'on puisse leur rendre d'une certaine manière. Donc voilà, en fait, on peut pas faire autrement que d'être mélancolique. Il faudrait être complètement aveugle ou sans empathie pour se débarrasser de cette mélancolie.
D'accord. Bon, moi j'arrête la radio, c'est bon. Il ne me manque plus rien.
Au contraire, j'espère qu'il vous manquera toujours.
Ah oui, il me manque énormément, ne vous inquiétez pas, vous risquez de m'entendre encore pour les 5 prochains siècles. Delphine Horviller, je vous ai demandé ce que vous aimeriez accomplir au cours de votre vie. Vous avez répondu: je pense avoir été à la fois fidèle à un héritage, donc une héritière, mais aussi une pionnière dans certains aspects. Il y a 5 femmes rabbins en France, je crois. Et alors, je crois que vous avez 3 enfants. Il y a une anecdote assez amusante, dont Samuel l'aîné, 7 ans, qui refuse de devenir rabbin, un métier de femme.
Oui, quand il avait 7 ans, maintenant c'est un grand garçon, mais quand il avait 7 ans, effectivement, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il m'a dit, je sais pas, policier ou roi ou pompier.
Et les 3
Oui, peut-être les 3. Et je lui ai dit, pourquoi pas rabbin? Et là, il m'a regardé avec un petit air méprisant, me disant, ça c'est vraiment un métier de fille.
« Ça fait des années et des années que j'étudie. La Bible, c'est presque venu un peu, pas par hasard, mais le fait de sortir d'une famille très antisémite, et même collabo, ça pose des problèmes quand on commence à réfléchir. Et soit on adopte le costume de la famille, ou soit on se dit, mais d'où ça vient? Et en ce qui me concerne, tout d'un coup, si vous prenez conscience d'une totale injustice de société, un jeu de société complètement injuste, alors vous rentrez dans un processus qui invite une curiosité. Mais pourquoi ?
Le peintre Gérard Garouste, dans l'émission Remède à la mélancolie sur la chaîne en 2015, ce sont ses œuvres, Delphine Horviller, que vous recommandez de beau aux auditeurs. Plusieurs sont exposées en ce moment à Beaubourg jusqu'au 2 janvier prochain. Dedans, il y a évidemment la métamorphose, l'identité en mouvement, un rapport au judaïsme très intéressant qu'il vient d'exposer en partie, et je recommande au passage son autobiographie, L'Intranquille, dans laquelle il évoque sa bipolarité, qui est formidable.
Oui, j'allais dire qu'effectivement, il faut absolument lire ce livre, qui est un livre extraordinaire sur la complexité psychique, la maladie, mais aussi sur tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, sur les métamorphoses identitaires, sur le fait qu'effectivement, il y a dans l'identité juive une intranquillité fondamentale qui la différencie peut-être d'autres traditions où on est en quête de sérénité, de zen. C'est pas du tout une idée juive, en fait. Dans le judaïsme, il y a au contraire, c'est un peu fatigant parfois, mais il y a ce support d'intranquillité. Il faut que tout soit toujours en mouvement, en effervescence, inabouti. Et c'est voilà, c'est une position particulière dans le monde, mais je trouve que Garouste, dans sa création, le raconte magnifiquement.
Mon père bâtit autour de moi une anxiété immense, comme un chantier naval, dont je sortis un jour sans être achevé, le laissant avec son immense anxiété toute vide, tandis que ma mère, tel un arbre sur la plage, tendait vers moi les bras. En 31, j'avais des mains gaies et menues. En 41, elles apprirent à manier un fusil. Lorsque j'aimais de mon premier amour, mes pensées ressemblèrent à un faisceau de ballons multicolores que la main blanche de la jeune fille tenait par un fil ténu et qu'elle laissa s'envoler.
Autobiographie en l'an 1952, poème de Yehuda Amichai, lu par Bernard Laïc dans l'émission Anthologie sur France Culture en 1977. Delphine Horviller, vous avez choisi la poésie de l'Israélien Yehuda Amichai, disparu en 2000 et dont l'un des recueils s'appelle « Derrière tout cela se cache un grand bonheur ». Ce qui pourrait résumer un peu l'émission.
Oui, il y a effectivement cette mélancolie très forte et en même temps cette force de vie, cet élan de vie chez Yehuda Amichai. Ce qui me touche particulièrement dans sa poésie, c'est que c'est un mélange de religiosité et d'athéisme assez fort. Il y a dans toute sa poésie des références bibliques que certains perçoivent et d'autres pas, mais c'est pas très grave. Il y a des échos du Talmud, de la Bible, des légendes anciennes du judaïsme, et en même temps, il y a quelque chose de très profane. Il parle beaucoup d'amour, de la joie d'être un père ou de la joie d'être un amant, et il y a cette espèce de mélange de style et d'univers auquel je suis très sensible. Et puis c'est un poète qui parle beaucoup du doute. Il y a notamment un poème qui me fascine, qu'il a écrit un jour, qui commence par ces mots « À l'endroit où poussent nos certitudes, aucune fleur ne grandira ». Quelque chose comme ça en hébreu. C'est-à-dire que je trouve que c'est une idée magnifique, cette idée que partout ou sous nos pas, il y a un manque de doute, des certitudes et des dogmes, eh ben, la terre devient stérile. Qu'en fait, les fleurs ne poussent que là où on n'est pas complètement sûr.
Et où il y a de l'espace à nouveau pour l'altérité ou d'autres identités.
Oui, de l'espace pour des gens qui seront d'un autre avis, d'une autre langue, d'un autre souffle.
Delphine Horviller, vous avez signé la préface du livre d'Amos Oz, Jésus et Judas. La littérature occupe-t-elle une place importante dans votre vie? J'ai un peu une idée de la réponse.
Oui, je crois qu'on est les enfants des livres qu'on a lus. Je l'ai écrit dans Il n'y a pas de hasard. Moi, j'ai la conviction que, bien sûr, on est les enfants de nos parents, de nos familles, des pays dans lesquels on vit, de nos histoires personnelles et collectives. Mais je crois qu'on est vraiment les enfants de nos bibliothèques, que les livres qu'on a lus nous construisent, qu'il y a un lien de filiation avec eux. Et oui, moi, je peux citer comme ça plein d'auteurs ou de livres qui ont contribué à mon élévation, à mon éducation de bien des manières. Aujourd'hui, très souvent, quand j'ouvre les livres dans ma bibliothèque, je fais partie de ces gens, je sais que ça choque certains, mais moi je gribouille énormément dans les livres, je souligne, j'écris des petits mots dans les marges, je fais des dessins, etc. Et j'adore quand je rouvre les livres de ma bibliothèque, essayer de comprendre pourquoi tel ou tel passage, à telle époque, m'a tellement touchée, ou parfois m'a ennuyée, ou m'a plu, et je trouve que les livres, ils racontent quel virage on a pris, comment on a grandi. Parfois, on se rend compte bien plus tard l'influence magistrale qu'ils ont eue dans notre vie. Alors qu'au moment où on les lit, on les referme en disant « bof ». Et puis finalement, 10 ans plus tard, vous vous rendez compte que ça a tout changé.
Est-ce que vous auriez un titre, mais on n'aura pas le temps d'expliquer, donc ce sera frustrant et mystérieux comme la vie ?
Le cinquième fils d'Elie Wiesel.
Voilà, maintenant je laisse les auditeurs deviner pourquoi et faire une exégèse. On arrive à l'engagement de fin d'émission d'Delphine Horviller et vous avez répondu que vous pensiez qu'un changement d'orientation se mijotait sur le long cours, pas forcément au détour d'une émission aussi brillante soit-elle. Moi je saute sur le compliment avant qu'il ne disparaisse. Pas d'engagement alors, même tout petit.
Non, je trouve ça difficile. Je pourrais prendre un engagement de réduire ma consommation de gluten ou de faire un peu plus de sport. Enfin, toutes ces choses qu'on se dit si souvent et qu'on n'arrive pas à faire. Mais voyez, c'est exactement comme pour les livres dont je viens de parler. Parfois, vous refermez un livre en vous disant rien de neuf sous le soleil. Et en fait, vous ne savez pas encore à quel point ça va faire de vous un autre être. Et donc, c'est la même chose pour les décisions qu'on prend. Parfois, vous prenez des grandes décisions et rien ne se passe. Et parfois, vous vous dites, ça va rien changer. Et si on se revoit dans quelques années, je vous dirai, à partir de ce moment-là, j'étais une autre.
Quelles graines sont semées ? Réponse dans 30 ans. Merci beaucoup, Delphine Horviller, d'être venue. Votre livre « Il n'y a pas de hasard » est paru aux éditions Grasset le 14 septembre dernier. Ce monologue contre l'identité sera joué sur scène du 13 au 23 décembre prochain au Théâtre du Rond-Point à Paris. Il sera interprété par Johanna Nizard, qui signe également la mise en scène avec Arnaud Aldiger. Le dernier numéro de la revue trimestrielle Ténois, dont vous êtes la directrice de rédaction, est intitulé « Questions de genre ». Et pour information, c'était la synagogue de Beaugrenelle à Paris que
Judaïsme
vous officiez.
En mouvement.
Judaïsme en mouvement. Chers auditeurs, toutes les références vous attendent sur le site de l'émission, tout comme nous sur les réseaux sociaux. J'espère que vous saurez convaincre votre prochain avec le charisme d'un salsifis précurseur et visionnaire. Rendez-vous dimanche prochain à 10h10.